pouvez démontrer que c'est vraiment cette démarche génétique d'Aristote, ce serait très intéressant, parce qu'alors on irait du complexe au simple. C'est vraiment la démarche de la réflexion logique. Vous voyez ? Alors, je fais un petit tableau pour que vous voyez bien cette complexité, et puis on va dire ensuite en face de cette complexité, voir comment on a pu nécessairement arriver à ce point de vue-là. La complexité la plus grande, donc, c'est la réflexion. Oui, je suis en face d'un but de persuasion. Je veux persuader. On est très en dehors de la question de la connaissance. Le but, c'est de persuader. La persuasion, c'est très important au point de vue politique. Les gens doivent bien voter. Donc, alors, plaidons, bien, ils doivent bien juger. Plaidons, arrivons à plaider. Ça, c'est la réponse. C'est ce qu'il y a de plus complexe. Dans la rhétorique, il y a des raisonnements multiples et différents, et puis surtout la rhétorique va se servir des raisonnements par mode d'exemple. Si vous voulez être un bon rhéteur, ayez des excellents exemples. C'est dire un procédé merveilleux. Dès le public évalué, prenez un exemple. Par exemple, dès qu'il est validé, on prend un exemple. C'est sûr. Parce qu'on ne tient pas, on tient très long, très peu de temps à raisonnement. Très peu de temps. L'exemple a un grand avantage pour procéder l'exemple, ça c'est dans la rhétorique. Alors vous comprenez que l'exemple, c'est justement où on revient aux données concrètes. Et la rhétorique a cet immense avantage, c'est de relier les données concrètes des faits. Vous avez ensuite alors la réputation statistique. La réputation statistique, elle est occulte. Ah, mais déjà là, on s'intuit. On tombe vers quelque chose qui est plus dans l'ordre de l'intelligence, l'opinion. Mais l'opinion repose sur l'autorité. Donc, ce n'est pas uniquement l'intelligence. Adhérer à l'autorité, ce n'est pas uniquement l'intelligence. Si avec l'intelligence, l'autorité est très limite dans l'ordre de l'intelligence. L'autorité fait appel à on s'appuie sur quelque chose. On s'appuie sur une autorité. On s'appuie sur quelqu'un qui a autorité dans ce domaine-là. Alors, l'autorité au point de vue philosophique, ce sont les femmes. Aujourd'hui, on mettrait le peuple. C'est au niveau dialectique, c'est vraiment important. Le tout, c'est de comprendre pas, ce que représente le point de vue de l'opinion. Et c'est sûr qu'il y a les deux. Il faut avoir une topique différente selon que vous parlez de l'État ou selon que vous voulez que ça fasse le fond à l'autre méthode. Pas le point de vue de la base, la communauté de base. Alors, c'est le point de vue de. Des choses qu'on dit dans la communauté de base, des choses qu'on dit dans les cercles des savants, des sages. Donc là, vous êtes au niveau de l'opinion et vous rassemblez les opinions en vue de voir la difficulté plus opposée. Là, il y a une dialectique d'opposition, là, c'est très très net hein, dans les opinions. Ensuite, vous avez les analyses. Alors vous arrivez non plus à l'opinion, l'autorité va rester tombée, vous allez plus être en face de la conclusion scientifique. Donc la connaissance parfaite. Connaître parfaitement, c'est connaître par les causes. On connaît parfaitement quand on connaît par les causes. Alors, il faut rechercher ce que c'est que la connaissance par la cause. Vous voyez, c'est une connaissance par l'autre. La conclusion, elle ne s'impose pas par elle-même. Donc, il y a l'autre. À la place de l'autorité, c'est l'autre. Mais cet autre, c'est quoi? C'est les axiomes. C'est les axiomes, c'est les propositions. Les propositions premières. Ça s'appelle les propositions premières, qu'on appelle les prémices. Enfin, les propositions premières. Les propositions premières qui sont normalement des propositions vraies. Les propositions qui s'imposent. Alors, la conclusion, qui est la connaissance scientifique, elle est par un autre. Et cet autre, c'est ou les axiomes ou les propositions premières. C'est donc quelque chose. Ou une hypothèse, il faut très bien avoir une hypothèse. Et l'hypothèse n'est pas l'autorité. C'est comme une prétrue, l'opinion s'appuie sur l'autorité, la conclusion s'appuie sur l'autre. Mais cet autre demeure dans le domaine de l'intelligence. C'est là la très grosse différence. Donc les analytiques font un tout dans le domaine de l'intelligence. On reste dans le domaine de l'intelligence. C'est l'intelligence qui réfléchit sur sa capacité de pouvoir conclure. D'avoir une connaissance parfaite. Les gens sont capables d'avoir une connaissance parfaite.
Et la connaissance parfaite, elle est comme
vous. Vous voyez, là, on voit très bien qu'Aristote est quand même très très loin d'une espèce d'intuitionnisme et d'une inspiration. Il cherche au contraire la rigueur. Il cherche au contraire à essayer de préciser le plus possible le point de vue de ce que représente la connaissance d'une conclusion. Puisque, justement, les analytiques, la science, hein, la science, là, vous êtes au niveau de la dialectique. Et là, au niveau de la rhétorique. Donc, vous retrouvez les trois autres. C'était présent chez Platon, mais qui sont distincts d'une façon beaucoup plus nette chez Aristote. Alors, puisque de fait, les conclusions scientifiques reposent sur l'autre des actions et des propositions, il faut donc étudier ces actions et ces propositions pour elles-mêmes. Puisque les analytiques ne les étudient pas pour elles-mêmes, ils les étudient dans leur fonction de science. Comment les axiomes et les propositions premières peuvent jouer le rôle particulier des sources des conclusions. Donc on les étudie en tant qu'elles sont causes. Connaître par les causes. Donc en tant qu'elles sont causes d'une conclusion. On va étudier alors ces actions ou ces propositions pour elles-mêmes, et alors c'est ce qu'on appelle le péri-herméneias, donc le livre de l'interprétation. Le livre de l'interprétation va étudier les énonciations. Les énonciations hypothétiques, les énonciations d'affirmation immédiate, les énonciations pour essayer d'étudier le point de départ en lui-même, non plus comme cause cette fois-ci, non plus comme source de la conclusion, mais pris en elle-même. Les énonciations prises en elles-mêmes. Et alors, en dernier lieu, mettez ça un peu en dehors, les catégories. Je crois qu'elles sont un peu en dehors, c'est ça qui est assez curieux. Les catégories sont quelque chose d'un petit peu différent. C'est pas la même chose, on n'a pas tout à fait la même. Vous voyez, là, on peut très bien saisir comment progressivement il y a un lien de ce qui est plus complexe à ce qui est plus fin, l'énonciation. Regardez-moi directement, et l'énonciation directement comme fruit de l'intelligence. Et alors, les catégories essaient d'étudier les termes fins. Parce que qui dit énonciation dit toujours un mot et un verbe. Donc les énonciations elles-mêmes ne sont pas simples. Elles impliquent un nom et un verbe. Elles impliquent une attribution. Le verbe est attribué au nom. Donc ce n'est pas simple. Donc il est normal que dans une réduction où on va aller jusqu'au plus simple, on va aller aux catégories pour saisir les éléments simples. Mais les éléments simples, pas du côté du nom, mais du côté de l'attribut. C'est pour ça qu'on les appelle les catégories, c'est-à-dire ce catégorale, ce qui est attribué. C'est les attributions, c'est les attributs pris dans la simplicité. C'est très curieux, vous voyez que ce n'est pas une logique du sujet. C'est quand même très curieux, il devrait y aller jusqu'au bout. Ou bien une logique du verbe, le verbe est pris du côté de l'attribut. On a dit nom et verbe, et ici on dit attribut. On a dit nom et verbe. Dans l'énonciation, c'est le nom et le verbe. Et là, on dit attribut, on dit catégorie. Et on étudie les catégories, les attributions primordiales, qu'on appellera aussi les genres principaux. Alors, les catégories ont une situation très spéciale, ça a toujours été reconnue. On se doute si c'est d'Aristote ou pas d'Aristote, c'est un autre problème que je ne traite pas ici, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de noter que cet ensemble d'ouvrages représente l'organon d'Aristote. L'organon d'Aristote, alors. Vous pouvez regarder dans Becker, ceux qui savent le grec suffisamment, mais pas pour essayer de lire tout ça. Ça vous fait pas mal de travail, ça. Si vous voulez commencer par le début jusqu'à la fin, pour essayer d'entrer dans la logique d'Aristote, je vous conseille pas de le faire tout de suite, hein, parce que ça vous abrutirait complètement. Il y a les traductions tricot, hein, qui peuvent vous aider. Mais les traditions tricot, vous savez, il faut avoir toujours le texte grec à côté, pour être sûr, parce qu'autrement, on ne sait jamais si c'est tout à fait ça. C'est pas assez précis. Alors, essayons de réfléchir un instant, il reste encore 2 minutes, dernière réflexion, sur, justement, comment tous ces livres, qui, selon un certain, un certain ordre, montrent bien le souci d'Aristote. Quelle est l'intention d'Aristote? Je laisse les catégories en dehors. Quelle est l'intention d'Aristote dans ses études de la rhétorique jusqu'à l'interprétation? dévotion. Son souci, c'est d'essayer de comprendre comment l'intelligence, quand elle est que l'intelligence philosophique, parce que c'est ça qui l'intéresse, c'est l'intérêt en l'intelligence philosophique, avant tout, hein, ça, c'est un philosophe, et c'est avant tout ça qui l'intéresse. Et dans de son temps, philosophie et science sont très très proches. Hein. Pas de distinction entre la biologie et la philosophie du vivant. Pas de distinction entre la physique et la philosophie de la nature. Donc ça simplifie le problème d'une certaine manière. Ça donne un autre problème. Mais pour arriver à ce qu'il y a que les mathématiques. Les mathématiques sont distinguées toujours de la philosophie du vivant. Et Aristote a toujours distingué les mathématiques de la philosophie. Et les a distinguées de diverses manières. Et pour Aristote, les mathématiques, c'est la seule philosophie qui étudie des êtres abstraits. La philosophie comme telle n'étudie pas des êtres abstraits. Elle étudie des êtres réels. Il montre très bien que le jugement philosophique ne s'arrête jamais à l'abstraction. Le jugement philosophique revient toujours à l'hécatombe. Il revient toujours à la réalité qui existe. La réalité qui existe auquel on doit tout le temps venir. On parle de la réalité qui existe et on essaie de saisir la réalité qui existe en saisissant son intelligibilité plénière. Donc ce qu'Aristote essaie de saisir, c'est comment l'intelligence, du fait même qu'elle est cotée, a un ordre propre dans son développement. L'ordre que l'intelligence a n'est pas celui de la réalité. C'est pour ça que quand Aristote fait de la philosophie, la logique est présente dans sa philosophie comme un instrument. C'est-à-dire ordonner à sa philosophie. Et tous les équivoques viennent de là, parce qu'on voudrait retrouver dans la philosophie d'Aristote la logique telle qu'il l'a donnée dans sa logique. On ne peut pas la retrouver. L'instrument ne fait pas non avec la pensée philosophique. Comment ne fait pas un instrument? L'instrument ne fait pas non, car il se fait, c'est la philosophie. Et donc l'instrument est comme perdu dans la réalité philosophique. Il est dedans, il est présent, mais je ne peux pas retrouver le même ordre. C'est tout à fait autre chose. Quand je fais de la logique pour la logique, je thématise cet ordre et j'essaie de comprendre l'ordre propre de la vie d'intelligence. Quand je fais de la philosophie, que je cherche à connaître c'est le réel. La logique est un instrument dont je me sers cet instrument, donc il est présent. La logique est présente dans toute l'œuvre d'Aristote. Mais elle est entièrement assumée au service de la pensée philosophique. Elle est entièrement dépassée par la philosophie. Ce n'est pas la logique qui est au terme de la philosophie, c'est l'instrument. Et donc, elle est toujours dépassée. Alors c'est pour ça qu'elle est meurtrie. Vous comprenez bien. La logique est tout le temps dépassée. Aristote n'arrête jamais la logique. Donc je m'arrête et nous continuerons très rapidement à faire quelques petits aspects sur l'histoire de la philosophie pour que ensuite nous puissions entrer dedans. Nous continuons l'introduction sur la logique. Je vous avais dit la dernière fois que la première chose à voir et à essayer de comprendre, c'est de voir la naissance de la logique telle qu'elle nous est donnée dans notre philosophie occidentale, voir comment elle naît à partir, premier moment, à partir de la dialectique platonicienne et même avant les sophistes, la rhétorique, et puis comment surtout elle naît dans la philosophie aristotélicienne. Aristote étant le premier à distinguer, à séparer l'organum, ce qu'il appelle l'organum, de l'œuvre philosophique. Et il sépare l'organum de l'œuvre philosophique parce que justement, sans l'expliciter, mais de fait c'est ce qu'il constate, il y a une différence entre le jugement d'existence qui affirme la réalité telle qu'elle est dans l'univers, à partir de nos expériences,
et la réalité telle qu'elle est à partir de notre connaissance. Je crois que c'est l'apparition de l'universel qui exige Aristote de réfléchir sur ce que représente cet instrument d'intelligence. Alors, nous reviendrons sur l'universel, de sorte que je ne vais pas ici développer ce que c'est que l'universel. Mais c'est intéressant de voir que c'est à partir de l'universel, je crois bien, présent déjà dans les topiques. L'universel est présent dans la philosophie de Platon. Là, il y a tout un problème très intéressant à voir. On le traitera peut-être un tout petit peu parce que c'est un problème très intéressant de voir la manière différente de l'universel chez Platon et chez Aristote. Parce que c'est tout le problème de l'abstraction qui est sous-jacent. Alors, comment, de fait, Platon conçoit-il l'universel et comment Aristote conçoit-il l'universel? Je ne le traite pas ici, nous le verrons. Je crois que c'est le problème fondamental au plan réflexion philosophique sur la critique. C'est d'essayer de voir ce qu'est l'universel. Et du reste, il y a eu toutes les querelles sur l'universel au cours des âges qui ont montré que la logique a pris des perspectives différentes. Alors, je crois que c'est proprement là où naît la logique. Dès qu'on comprend que nous sommes capables de réfléchir sur ce qu'est l'universel, la seule chose qui existe, c'est le singulier. Et l'universel apparaît dans l'esprit. Apparaît dans l'esprit et dans le langage. Il y a un phénomène de proposition universelle, d'attribut universel, qui ne serait plus le singulier. Or, seul le singulier existe, comment se fait-il que l'universel apparaisse? Qu'est-ce que ça correspond, l'universel? Et puis, à partir de là, on comprend qu'il y a une possibilité pour l'intelligence, grâce à l'universel, de voir le problème de l'attribution, le problème du raisonnement, des raisonnements qui sont nécessaires et rigoureux et des raisonnements qui ne le sont pas. Donc tout un enchaînement que l'intelligence fait à partir de l'universel. Si l'universel n'existait pas, il ne pourrait pas y avoir cela. Donc l'universel apparaît bien comme la condition sine qua non de toute la logique comme une connaissance que nous pouvons avoir à partir même de la réflexion sur notre manière de connaître. Nous connaissons en universalisant. C'est le problème de l'intelligence humaine. L'intelligence a un besoin de définir. Vous voyez déjà le problème chez Socrate, le point de vue de la définition, qui est quand même un grand problème. Quel problème chez les sophistes et quel problème chez Socrate? Définir. Or, définir implique justement de dépasser le problème du singulier pour arriver à saisir quelque chose qui est au-delà du temps. Donc le dépassement à l'égard du temps, le dépassement à l'égard du devenir, pour saisir quelque chose qui s'impose. Alors on pourrait dire que le problème de l'universel est contemporain chez Aristote du problème de la découverte du nécessaire. Nous y reviendrons. C'est un des problèmes intéressants à voir, comment le nécessaire apparaît en logique, que la logique va essayer de chercher le nécessaire, et les diverses conceptions de la logique reposent de fait sur l'universel et le nécessaire. Et le nécessaire, l'universel apparaît comme nécessaire parce que justement il n'est plus dans la contingence. Il est au-delà de la contingence. Les réalités singulières sont contingentes. Vous n'avez aucune expérience du nécessaire dans vos expériences. Les expériences, au contraire, nous montrent le point de vue de la relativité des choses, puisque nous ne saisissons que des choses qui sont mobiles, qui peuvent changer, qui peuvent être détruites, qui sont dans la génésie. Où le nécessaire apparaît en premier lieu, c'est dans la réflexion sur l'intelligence, et à partir de l'universel. L'universel est au-delà du mouvement. S'il est au-delà du mouvement, il apparaît comme nécessaire. S'il est au-delà du mouvement, il est au-delà du temps. Et donc, il n'est plus soumis au temps. Et s'il n'est plus soumis au temps, il a quelque chose, justement, qui lui permet d'être nécessaire, d'apparaître comme quelque chose qui s'impose. Et alors, ce nécessaire va apparaître également dans le langage, dans les liens qui va exister entre le sujet et l'attribut. Mais il apparaît en premier lieu dans la philosophie, pour Aristote, dans le problème, justement, de l'universel et de la définition. Oui, c'était donc déjà enraciné dans le problème de Socrate, la connaissance. Le premier dialogue de Platon, c'est le point de vue de la recherche de la définition. Et la définition, c'est une recherche du nécessaire. Alors, on voit là une parenté entre les deux. Donc, je n'insiste pas, hein, mais je crois que c'est important de bien saisir la naissance même du point de vue de la logique chez Aristote, et la voir à travers les catégories, le livre de l'interprétation, les analytiques, les topiques, les réfutations sophistiques et la rhétorique. Voir toujours ces diverses modalités où la logique se donne à nous. Deuxièmement, je serai très bref parce que ce sera un problème très vaste, les divers moments du développement de la logique. De la logique d'Aristote à la logique mathématique, c'est ça qu'il faudrait voir. Et voir comment, de fait, il y a toutes les étapes. Je vous renvoie, pour ceux qui ont beaucoup de courage, au livre du père Boransky sur l'histoire de la logique. Vous avez là une matière à réflexion. C'est une espèce de fichier qui vous donne des quantités de choses et qui sont intéressantes à réfléchir et à essayer d'analyser, voir ce que ça représente exactement. Vous voyez, parce qu'au fond, il a essayé de saisir, de façon assez globale, on pourrait préciser surtout sur la question du Moyen-Âge et la logique du Moyen-Âge, pas la logique des théologiens. Mais en gros, il essaie de saisir les différents moments de la logique. Il n'y a pas de livre parallèle à ça, il y a des études particulières, ils ne sont pas toujours dans le même sens, mais il y a quelque chose d'intéressant à dire. Donc je vous renvoie à cela. Nous allons essayer, nous, si vous voulez, non pas en opposition, mais tout simplement préciser d'autres aspects. Il y a, je vous disais, dans la philosophie grecque, un très grand moment à bien saisir, très à l'ordre du jour, la logique des stoïciens. Ce qui intéresse à la logique grecque, à la philosophie grecque, c'est évidemment quelque chose qui serait très intéressant à bien voir. La différence entre la logique aristotélicienne et la logique des stoïciens. Il y a deux philosophies contemporaines. C'est intéressant parce que c'est quelque chose qui vient immédiatement après. Les stoïciens, c'est pas très tellement longtemps après Aristote. C'est né très peu de temps après. C'est donc de voir que tout de suite, la logique s'est inclinée vers quelque chose de particulier. Alors, je vous renvoie à l'étude de Virieux-Raymond, la logique et l'épistémologie des stoïciens, qui nous étudie le parallélisme entre la logique d'Aristote et la logique des stoïciens. Avec la perspective, et c'est ça qui est aussi intéressant, avec la perspective de montrer le parallélisme avec la logique mathématique. Leur rapport avec la logique d'Aristote, quel est le lien entre la logique stoïcienne et la logique d'Aristote, et la logique mathématique. Donc on voit bien que ce livre, c'est pour Virieux-Raymond, c'est net. La logique des stoïciens est différente de la logique d'Aristote, et la logique des stoïciens est, d'une certaine manière, pour elle, le premier moment de la logique, telle qu'on la verra dans la logique mathématique. Oui. Pour le père Boransky, c'est intéressant parce qu'il y a deux thèses différentes. Alors, c'est intéressant de voir les deux thèses différentes, parce que quand on a deux thèses différentes, on est obligé d'être intelligent et d'accepter l'une et de refuser l'autre. Ou bien on pourrait être évidemment comme l'âne de Buridan, éternellement entre deux thèses, en disant je ne choisis pas parce que je ne comprends pas et je ne vois pas assez. Mais si on réfléchit, il faut essayer de comprendre. Pour le père Boransky, la logique mathématique, au contraire, se fonde sur la logique d'Aristote. Il y a une continuité. Et je crois que là, la très grosse différence des deux thèses. C'est intéressant à voir. personnellement, je suis beaucoup plus du côté de Viriau-Raymond. Et je crois que vraiment, il y a deux logiques différentes, la logique d'Aristote et la logique des stoïciens, qui représentent deux logiques différentes. Alors je vais vous expliquer en quelques mots, puis nous verrons ensuite progressivement. Je ne veux pas m'attarder trop longtemps là-dessus, c'est un problème historique, mais très important au point de vue de l'histoire de la pensée. C'est très important, on va dire, la logique c'est toujours très important. Je te dirais, dis-moi quelle logique tu as pour que je scrute ta pensée. C'est toujours intéressant. Parce que quand on voit la logique à quelqu'un, on voit tout de suite jusqu'où va sa pensée. Ça ne peut pas être autrement. Or, la logique s'exprime, elle se dit. Et alors, on la voit dans le langage. La pensée ne se dit pas. Hein. C'est difficile de juger la pensée. Ce n'est pas commode. Hein. Les examens sont faits pour ça, normalement. Plus exactement, les examens ne peuvent jamais juger jusqu'où. On juge de l'érudition de quelqu'un dans un examen. Donc, ne juge pas jusqu'où va la profondeur de la pensée. Alors que ça devrait être cela. Il y a une certaine profondeur de pensée philosophique. Chacun d'entre nous, nous allons plus ou moins profondément. Et l'effort, on peut comprendre le progrès philosophique du côté de l'extension ou du côté de la compréhension. Les deux choses ne vont pas en même temps. C'est très très curieux. Il y a des intelligences qui se développent du côté de l'extension et des intelligences qui se développent du côté de la compréhension, de la pénétration, une lecture en profondeur, et qui fait qu'à partir de là, il y a quelque chose de différent qui se donne. Alors, il est évident que la logique d'Aristote est liée à sa philosophie. Ça, je crois que c'est absolument impossible de la séparer complètement de la philosophie d'Aristote. C'est pour ça qu'on ne peut comprendre la logique d'Aristote que dans la mesure où on comprend sa philosophie. Pour Aristote, la logique présuppose la connaissance. Et la logique présuppose une connaissance philosophique. C'est en ce sens-là qu'il pourra de fait établir des distinctions entre la dialectique, les analytiques et l'interprétation. Ça présuppose une certaine conception de la connaissance. Et ceci me semble très net chez lui, parce que la logique est utilisée dans sa philosophie, et l'utilisation qu'il fait de sa logique dans sa philosophie n'est pas sa logique. Mais la logique ne se sépare jamais totalement de sa philosophie. Vous voyez ça d'une façon très nette dans le livre de l'interprétation et des catégories. Même si les catégories ne sont pas d'Aristote, on reconnaît que c'est quand même très en dépendance de sa philosophie. Et le livre de l'interprétation, alors, est très très net, dépendant de toute une vision philosophique. Mais autrement dit, là, vous êtes vraiment... Dans les analytiques, on pourrait déjà dire, il y a les premiers analytiques qui semblent vouloir se séparer de la philosophie. Mais les premiers analytiques sont ordonnés aux seconds analytiques, et les seconds analytiques sont impliqués dans une matière nécessaire. Et donc les seconds analytiques sont liés à une pensée. Les topiques sont en dehors de la philosophie. Donc il y a déjà là un discernement très net entre ce que représentent les topiques et les analytiques. La philosophie veut l'épistémé. Et l'épistémé, c'est la science, et la science pour lui est une science philosophique. La connaissance par les causes. Si la science est la connaissance par les causes, il y a tout de suite une certaine conception de ce que c'est que la cause. C'est impliqué directement dedans. Impossible de comprendre les seconds analytiques si on ne comprend pas ce que c'est que la cause chez Aristote. C'est absolument impossible. Je crois que c'est ça. On ne veut pas. Mais c'est du reste intéressant de voir combien de modernes veulent essayer d'expliquer les analytiques dans leur perspective. Ils n'y arrivent pas. Ils ne peuvent pas. Alors, il dit qu'il y a de l'illogisme dans Aristote est dans l'ambiguïté. C'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris sa philosophie. C'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas pénétré ce qu'Aristote nous dit. La logique d'Aristote est liée à sa philosophie. Je crois qu'on ne peut pas la séparer. On ne pourrait pas appliquer la logique d'Aristote à ce que dit Platon. On ne peut pas appliquer la logique d'Aristote à ce que disent les stoïciens. On ne peut pas appliquer la logique d'Aristote à Plotin. Pas uniquement dans la Grèce, hein. C'est intéressant. Et vous savez bien, on ne peut pas appliquer la logique d'Aristote à la dialectique hégélienne. Donc, il faut bien voir que la logique d'Aristote, tout en étant l'organon, c'est-à-dire un instrument, est fondée sur la philosophie. Alors, la distinction qui existe entre les deux, c'est que, nous essaierons de préciser plus, c'est que, de fait, la philosophie est le fondement. Donc, c'est matériel comparativement à la formalité de la logique. Mais c'est matériel, mais c'est essentiel. C'est le fondement. C'est pour ça qu'on a dit logique matérielle, l'application, c'est un très mauvais nom, et je crois qu'il ne faut pas trop le dire, parce que c'est très, ça fausse tout. Il vaut mieux dire fondement. Vous voyez, la philosophie fonde la logique. Et la logique pourra, d'une certaine manière, se formaliser indépendamment de la pensée philosophique. Mais la formalisation de la logique n'a pas de sens en dehors de son exercice et de sa finalité. Je peux formaliser un instrument, mais un instrument est fait pour un exercice en vue un exercice en vue d'une application. Et alors, c'est là où, dans l'application et l'exercice, vous voyez la logique au service de la science. La science, pour Aristote, n'est pas la logique, que la science est la philosophie. Mais la formalisation de la science est logique. Bien distinguer les deux. C'est pas commun, toujours. Hein. Bien voir la différence entre les deux. La connaissance scientifique pour Aristote est philosophique. Elle est philosophique. Donc elle implique un contenu de pensée. Elle implique une signification. Elle implique la saisie de principes. Donc toute pensée scientifique est philosophique et elle implique un contenu de pensée. Elle implique nécessairement des principes. Et les principes pour Aristote, cette saisie des principes, saisit les causes. Et les causes, c'est un contact avec le réel. Donc, la philosophie d'Aristote est relative au réel. Toujours. Et elle doit se terminer par rapport au réel. Elle ne se termine pas au niveau des principes. Elle se termine au niveau de l'ékastole. Aristote le dit formellement dans les secondes analytiques. Donc, elle se termine à l'ékastole. L'ékastole, c'est la réalité, c'est chacun. Elle ne se termine pas au niveau des principes. Donc, la science nous donne une connaissance universelle de quelque chose de réel. Là, la chose très délicate à saisir. Et très, très vite après Aristote, on verra avec le nominalisme, on n'a plus compris ça du tout. D'où les conséquences énormes qui ont eu lieu après. Tandis que pour Aristote, on saisit dans le singulier quelque chose de nécessaire. On peut saisir dans le réel contingent quelque chose de nécessaire. Ce réel est contingent, mais si j'ai une connaissance scientifique de ce réel, je saisis quelque chose de nécessaire dans ce réel. Et c'est le propre de la connaissance philosophique. La connaissance philosophique consiste à essayer de comprendre dans les réalités que j'expérimente, ces réalités qui sont toutes contingentes, puisque vous n'avez pas d'expérience du nécessaire. Ça, c'est très très important de se le rappeler. Le commencement, vous commencez à dire que vous avez l'expérience du nécessaire, vous commencez alors à vous enfermer dans des a priori. C'est ça le propre de s'enfermer dans des a priori, c'est d'avoir de dire j'ai l'expérience du nécessaire. Eh bien non, vous n'avez pas l'expérience du nécessaire. Vous avez l'expérience de réalité contingente. Mais ces réalités contingentes, vous pouvez les lire de telle manière, une lecture philosophique, qui fait qu'on essaie de saisir dans ces réalités contingentes leurs principes et leurs causes. Et à partir de ce moment, je peux avoir une connaissance qu'Aristote appelle scientifique, mais c'est toujours entre parenthèses scientifique, hein, parce que nous avons tous dans notre tête le mot science moderne, hein, et c'est pas du tout ça. Alors il faut arriver petit à petit à comprendre que le mot science a une signification totalement différente chez Aristote, chez Platon, et chez les modernes. C'est très gênant, c'est le même mot. Hein. Ça, sauvez-vous, c'est comme ça. C'est c'est que notre langage est toujours équivoque. Toujours. Notre pensée ne l'est pas toujours. Mais notre langage l'est tout le temps. Parce que le mot science est totalement différent dans la perspective de Platon, dans la perspective d'Aristote, dans la perspective moderne. Et Aristote sait très bien, il parle des sciences mathématiques. Et les sciences mathématiques sont tout autres que la science philosophique. Et il parle de science au niveau philosophie de la nature, et la philosophie de la nature n'est pas la philosophie première. Donc il sait très bien que le mot science implique pour lui diverses significations. Il faut toujours se rappeler ça. Donc, le propre de la science d'Aristote, c'est d'essayer de découvrir dans le réel un rapport nécessaire. La connaissance philosophique consiste donc de saisir le réel dans ce qu'il a de nécessaire. C'est le propre du philosophe. Saisir le réel dans ce qu'il a de nécessaire. Et tout son effort est là, à des niveaux différents. Puisque le nécessaire du réel va se donner à des niveaux différents. Le point de vue de la logique consiste à réfléchir sur la manière dont notre intelligence peut analyser le réel, peut avoir ce contact avec le réel et saisir le point de vue du nécessaire. Donc, la philosophie, la logique d'Aristote repose sur sa philosophie. Nous sommes en présence, avec les stoïciens, d'une logique qui va, en quelque sorte, s'identifier avec leur pensée physique. Autrement dit, la distinction entre logique et physique, il n'y a plus de philosophie première chez les stoïciens. Le réel, c'est le corps. Il n'y a pas de réel invisible. Il n'y a pas de substance séparée. Le réel, c'est le corps. Le réel, c'est le souffle. Un souffle plus ou moins intense, avec l'intensité qui joue un très grand rôle chez les stoïciens, mais le réel, c'est le corps. Et alors, par le fait même, ils auront physique, morale et logique. Donc, on a une division toute différente que celle d'Aristote. On a la vision du monde, qu'il appelle la physique, qu'on appelle aujourd'hui la cosmologie, n'est-ce pas ? Mais au fond, c'est la physique. On a une vision, la vision morale, c'est l'homme, et la logique. Et la logique, c'est comme le lien entre les deux. Alors, la logique n'est plus du tout considérée comme un organone. Et là, ce qui est très particulier à la pensée stoïcienne, c'est qu'il n'y a plus d'universel. Il n'y a plus d'abstraction. La connaissance n'implique plus d'abstraction. Il y a le fait de connaître, au contraire, dans une représentation compréhensible, réelle. C'est leur fameuse expression. Ce serait presque analogue à ce qu'on appellerait aujourd'hui la perception. Vous voyez ? C'est presque analogue, je ne dis pas que c'est la même chose. Mais la perception nous met un peu dans ce chemin-là. On a une connaissance, une représentation compréhensible du réel. Une perception qui serait parfaite. Qui n'implique donc pas d'analyse de la cause. Il n'y a pas d'analyse du réel, il n'y a pas de saisie de l'universel. Par le fait même, où va se situer le nécessaire ? Le nécessaire va se situer uniquement dans la connexion des propositions. Nous aurons des propositions qui exprimeront ce que nous saisissons du réel et nous essaierons de mettre des connexions nécessaires entre ces propositions. D'où le procédé classique des stoïciens, qu'on retrouvera dans toute la logique mathématique, de se mettre dans le point de vue hypothétique pour saisir le nécessaire. Grâce à l'hypothèse, s'il pleut demain, s'il pleut, vous voyez, c'est une hypothèse, c'est plus la réalité du réel. Le réel étant contingent, on ne peut pas saisir du nécessaire. Il faut se séparer du réel pour faire une hypothèse, atteindre le possible. Grâce à l'hypothèse, je suis dans le possible. Et grâce à cette apparence du possible, s'il pleut demain, c'est du possible. Je n'en sais rien. Il pourra pleuvoir demain. C'est du possible. Par le possible, on va voir la connexion, une conséquence. Si P, Q. Alors, c'est la seule là où je vois la conséquence. Et s'il pleut demain, il sera humide. S'il pleut demain, il y a toutes les conséquences que vous pouvez mettre. Vous voyez, comme conséquence. Et c'est là où vous saisissez le nécessaire. Autrement dit, alors ça c'est le très gros problème de la structure de la pensée des stoïciens, autrement dit, le nécessaire apparaît sur le possible. Vous voyez, alors là nous touchons quelque chose de très important et très fondamental, c'est peut-être, je dis peut-être, parce que c'est difficile à savoir, mais plus j'avance, plus je me demande si nous ne sommes pas là, en face de deux structures de pensée tout à fait fondamentales, le lien entre le possible et le nécessaire, et le lien, au contraire, dans la philosophie aristotélicienne, de là, à partir de quoi nous faisons le possible. Oui. Nous avons le lien du possible vers le nécessaire, mais c'est la flèche. Tandis qu'au contraire, pour Aristote, on saisit le possible qu'à partir de là. Donc, il y a deux mouvements de pensée totalement différents. C'est en fait ça que je crois qu'on ne peut pas identifier ces deux logiques. Ça semble absolument impossible, parce qu'il y a deux mouvements différents de la pensée. Alors, ça peut être complémentaire, ça c'est autre chose. Hein. Ça peut être complémentaire, mais c'est pas la même chose du tout. Donc, ne disons pas qu'une logique engendre l'autre. Alors, je crois que tout repose sur ce mouvement-là. Vous voyez, essayez de voir à partir du possible. Là, vous avez six hypothèses qui va permettre la connexion nécessaire. C'est donc dans la connexion que va apparaître le nécessaire. Si P, Q. C'est ça que vous voyez comme connexion. C'est la connexion du nécessaire. Autrement dit, toute cette logique repose sur un rapport. C'est pour ça qu'on pourra dire que c'est la logique de la relation. C'est uniquement la relation nécessaire que vous saisissez. Et pas autre chose que cela. C'est pas le contenu, peu importe. Le contenu n'est pas important. Le contenu n'est plus un contenu réel. C'est un contenu hypothétique. Et c'est ce contenu hypothétique qui intéresse, parce qu'il permet d'avoir une connexion. Et donc d'être une logique de la relation. La relation joue un rôle capital dans la philosophie stoïque. C'est la chose fondamentale, puisqu'il n'y a plus d'analyse pour retrouver l'essence des choses. Non, c'est que le singulier, uniquement. Vous êtes en face du singulier. Alors, si vous êtes en face du singulier, qu'est-ce que vous pouvez saisir uniquement? C'est les connexions. Et donc, c'est les relations. C'est un faisceau de relations que vous essayez de saisir, hein, avec un noyau. Le sujet, c'est un noyau, forcément. Tandis qu'au contraire, dans la perspective d'Aristote, puisque pour Aristote, je dis que sa logique dépend de sa métaphysique, pour Aristote, l'acte est premier, ceci est, c'est l'acte, hein, ceci est, jugement d'existence. À partir de l'acte apparaît le possible. Mais le possible apparaît sur l'acte. Et c'est là, c'est pas le nécessaire en premier lieu. Aristote se sert du nécessaire, mais le nécessaire est un mode de l'acte. C'est un mode, ce n'est pas l'acte. Tandis qu'au contraire, dans la philosophie stoïcienne, nous sommes en face du nécessaire qui, de fait, commande toute sa logique. Alors, si nous sommes donc une logique qui reconnaît le point de vue de l'acte, l'acte est lié à la substance. Qu'il y aura un lien très grand entre ceci et l'aspect de la substance. Nous serons donc en face d'une logique de la substance et non plus de la relation. C'est pour ça que l'IA chez Aristote joue un rôle si important. Et c'est ce que vous voyez dans les catégories. Dans les catégories, c'est dit explicitement ça. Dans les catégories, on montre que toute l'attribution repose sur un sujet. Et que ce sujet est la substance première auquel on attribue toutes les autres choses.
substance, première catégorie, et le sujet auquel on attribue tout. Donc c'est la logique de l'attribution qui repose sur la substance. Ce n'est plus la logique de la relation, mais c'est la logique de l'attribution.
Et alors là, au moins, essayez de comprendre qu'il y a deux logiques totalement différentes. Et je crois que la logique mathématique, si vous essayez d'analyser ce que correspond la logique mathématique, vous voyez bien que c'est la logique de la relation.
La logique de la relation qui commande toute la logique mathématique. La logique mathématique, c'est une logique de la relation. C'est une logique possible. Ce n'est plus la logique qui repose sur le point de vue de l'affirmation ceci est. Et alors c'est pour ça que la logique stoïcienne va permettre le développement d'une logique purement formelle. Une logique qui est une logique du possible pourra devenir une logique purement formelle, indépendamment du contenu. Elle pourra se séparer du contenu pour être uniquement une logique de la fonction et voir les différentes fonctions qui sont impliquées dans le langage, qui sont impliquées dans le raisonnement. Alors vous ne regarderez plus que l'aspect de la fonction, parce que la relation peut se traduire en fonction. Et la relation n'implique que ça, les divers types de relations. Alors vous pourrez voir uniquement cet aspect de la fonction sans avoir le besoin d'une référence de la signification. Tandis qu'une logique qui repose sur l'attribution et qui en définitive repose sur la substance est une logique qui ne peut pas se séparer de la signification. Elle pourra se distinguer, on fera une distinction entre les fonctions et la signification. Mais les fonctions ne pourront pas s'isoler de la signification. Et je crois que là, au moins pour les stoïciens, pour la logique mathématique, on pourra discuter, mais au fond, pour les stoïciens, ceci me semble assez net, qu'il y a là une logique très particulière. Alors, voyez dans ce livre, pour ceux qui s'intéressent à ça, et c'est difficile de découvrir la logique des stoïciens. C'est pour ça que là, vous avez une étude simple, qui n'est pas compliquée, qui vous donne des textes intéressants et qui vous permet de vous donner une certaine signification, certain sens de la logique des stoïciens. Donc, page 128 et suivant, où on montre d'abord les parallélismes entre la logique aristotélicienne et la logique des stoïciens, puis ensuite on met ceci. Mis à part la rhétorique, la logique pour les stoïciens consiste essentiellement en une dialectique du discours correct, une dialectique du discours correct. On est au niveau du discours, on est au niveau des choses qui se disent, des lecta. Lecta, c'est justement ce qui se dit, ce qui est dit, lecta, n'est-ce pas ? Donc, on est au niveau de la dialectique du discours, correct, par demande et par réponse, science capable de discriminer le vrai et le faux par rapport à la vérité, c'est-à-dire au réel. Mais le réel étant justement ce que représentent ces relations entre les différentes réalités. Par exemple, « il fait jour, il fait clair » est un discours correct qui correspond aux impressions ressenties et aux notions qui les expriment. Au contraire, le discours « il fait jour, il ne fait pas clair » est immédiatement démenti par la sensation. Donc vous avez d'abord ce fondement-là. Et nous ne sommes pas encore dans la dialectique de la science. C'est dans le propos de la science, justement, que nous verrons les connexions simples et les connexions syllogistiques. Et au fond, ce sera là la grande distinction que nous trouvons chez Chrysippe et qui correspond bien à ces deux aspects différents de sa logique. Vous voyez, la connexion simple, directement quand vous énoncez deux choses, le lien des énoncés simples, le lien des énoncés complexes réside d'après Chrysippe dans la connexion si. À quoi il faut ajouter, selon Chrysippe, la connexion introduite par puisque. Puisqu'il fait jour, il fait clair. S'il fait jour, il fait clair. Vous voyez, vous renversez. Il y a d'autres types encore d'énoncés complexes, le type conjonctif, et il fait jour, et il fait clair, le type disjonctif, où il fait jour, où il fait clair. Alors vous avez tous les types de connexions qui peuvent exister entre les deux. Bon, je ne m'attarde pas là-dessus, c'est simplement pour vous montrer qu'en philosophie grecque, il y a un moment très important à bien saisir, c'est sitôt après Aristote,
le problème de cette logique stoïcienne. Il y aurait un autre aspect à souligner. Je le fais que souligner, la logique des mégariques. Aristote en fait allusion. C'est intéressant, parce que la logique des mégariques, c'est justement la logique de ceux qui refusent le possible. C'est juste l'inverse des stoïciens. Logique des possibles, logique du fait. Les mégariques refusent le possible. Hein. Vous voyez, dans le livre d'Aristote, on a peu de données hein, sur les logiques des mégariques. Mais aujourd'hui, on essaie de creuser, de retrouver la logique des mégariques comme une logique intéressante. Autrement dit, si vous voulez, en philosophie grecque, nous aurions trois logiques différentes. La logique d'Aristote à partir de l'universel. La logique des stoïciens qui fait apparaître la connexion nécessaire dans le point de vue de la relation, une relation nécessaire. C'est ça que cherche la logique stoïcienne. Et la logique des mégariques qui essaie de saisir des relations des faits. Puisqu'il n'y a plus de possible. Le possible n'existe pas. On ne regarde que les faits. Alors c'est une espèce de dialectique des faits. Donc vous avez là trois aspects, et au fond, d'une certaine manière, la logique d'Aristote dépasse les deux, si on voulait montrer. La logique d'Aristote va essayer de rejoindre le réel en essayant de comprendre le nécessaire que l'intelligence saisit. La logique des stoïciens ne voit pas comment, dans le point de vue du réel, on peut saisir du nécessaire, puisque le réel est nécessairement contingent. Il faut donc uniquement dans le rapport et dans la relation, et la logique des mégariques qui ne regarde plus le point de vue des possibles sera nécessairement dans une relativité absolue. Enfin, ça, elle est liée au sophiste. La logique mégarique est liée au sophiste, elle est dans la relativité absolue. Et vous n'avez que des faits relatifs. Un autre moment intéressant qu'il faut essayer de saisir aussi, je le cite simplement, Porphyre. Alors là, nous sommes dans une perspective des néoplatoniciens. Les néoplatoniciens, à la suite de Platon, puisque pour les néoplatoniciens, Platon est leur dieu, Platon c'est la grande révélation, les néoplatoniciens n'ont pas développé une logique particulière. Vous ne pouvez pas trouver dans Platon une logique particulière. Il y a une chose importante au point de vue où nous plaçons ici, c'est la critique que fait Plotin des catégories. Ça, c'est très intéressant. C'est un moment très intéressant où on voit comment Plotin comprend les catégories d'Aristote d'une manière qui est tout à fait en dehors de la perspective d'Aristote. Et c'est la critique qu'il fait aux catégories. Parce que dans la perspective des néoplatoniciens, il ne peut pas y avoir d'organon d'une logique distincte de la pensée philosophique. Alors, on voit très bien la critique qu'il fait aux catégories comme justement quelqu'un qui ne peut pas comprendre ce que représentent les catégories d'Aristote. Je ne m'intéresse pas là, c'est simplement critique, ça, c'est pas intéressant. Ce qui est important, c'est le livre de Porphyre de Lysagoguet. Parce que ça a joué un très très grand rôle. L'introduction aux catégories d'Aristote. L'arbre des prédicables. Pour lui, les prédicables ou catégorèmes sont au nombre de cinq. Alors nous avons là les prédicables. Alors c'est à se demander dans quelle mesure Porphyre a défiguré l'universel ou dans quelle mesure il est resté fidèle à la pensée d'Aristote. Les néoplatoniciens, comprenons bien, les néoplatoniciens ne sont pas hostiles à Aristote. Il critique certains aspects.